et il n'aimait pas les contretemps, encore moins quand son acheteur se trouvait face à lui. M. Zeng souriait d'aise, tandis qu'on s'activait autour de la cage, demandait au serveur qu'on le prenne en photo devant le grand fauve, aussi drogué qu'il pouvait l'être, tout en tenant encore debout. « Je te rappelle, » abrégea Rainer. Car la machine était prête. Alerté, le tigre lança un regard de feu aux hommes qui s'agitaient près de lui. Il fallait que la bête soit vivante, fraîcheur oblige, avant d'être préparée par les cuisiniers. « À vous l'honneur, monsieur Zeng !» l'encouragea Duplessis, revenu aux affaires. Le Chinois leva son quintal pour saisir le manche du pic d'acier relié à une boîte au voltage surpuissant. La mise en marche fit reculer le félin. Ce n'est pas son instinct qui le fit feuler et plaquer ses oreilles en arrière. Le tigre n'avait jamais vu pareille machinerie, mais la terreur. Le visage de monsieur Zeng se crispa quand il piqua la fourrure du fauve à travers les barreaux, et d'une décharge foudroyante, il l'électrocuta. Chapitre 2. Le Kalahari, la grande soif, recouvrait les trois quarts du Botswana et la zone est de la Namibie, un désert ininterrompu, battu par des vents de sable où persistaient de rares eaux de surface. Il fallait puiser dans les sources souterraines avec des milliers de puits disséminés sur ce territoire qui s'étirait jusqu'aux rives du fleuve Okavango. Son delta, patrimoine mondial de biodiversité, était un lieu unique pour les animaux migrants à sa saison sèche. Nkon, comme tous les San, connaissait intimement le désert austral. Et son ami John avait de l'argent à investir grâce à l'exploitation de sa mine au cœur du Kalahari namibien. Ensemble, les deux hommes avaient travaillé d'arrache-pied pour bâtir le lodge et les infrastructures de Wild Bunch, clôturer les 90 000 hectares de la réserve, réunir les bêtes et permettre l'ouverture au tourisme du sanctuaire animalier. Leur gagne-pain, depuis que la mine de diamants s'était officiellement tarie. Les San étaient les ancêtres des hommes modernes, gardiens d'une culture figée depuis plus de 30 000 ans. Ceux qu'on appelait vulgairement « Bochimans » n'avaient pas de chef, de loi, de concept de stock, à la différence de leurs cousins pasteurs, les Khoi, ou Khoi-Khoi. Reconnaissables aux clics qui caractérisaient leur langue, les ancêtres Khoi et San avaient exécuté des gravures et des peintures rupestres plus anciennes que celles de Lascaux, représentant des chasses au coudou ou à l'antilope, mais aucune scène de guerre ou de violence. Adaptés à leur biotope, sans empreinte écologique, les petits hommes du désert se déplaçaient comme les animaux en fonction des pluies pour se nourrir de fruits, de racines et du gibier qu'ils suivaient à la trace. Ceux qui suivent l'éclair, comme se définissait le peuple San. Et l'éclair avait mené Nkon et sa famille élargie à Wild Bunch. Outre son prénom imprononçable en raison du clic qui le fendait en deux, même John, qui avait vécu parmi eux, l'appelait Nklon. Sa nonchalance et son sourire aux dents manquantes le faisaient passer pour un bon sauvage, respectable et inoffensif aux yeux des Occidentaux. Les clients américains qui séjournaient depuis 3 jours à Wild Bunch lui parlaient avec une condescendance tout anglo-saxonne, guère impressionnés par son bob au bleu délavé, son treillis informe et ses godasses au cuir troué. Une lionne les avait mâchés une nuit, lors d'un campement sous tente, où il avait eu l'étourderie de les laisser dehors. John se demandait d'où venait ce sentiment de supériorité à l'égard des autochtones, d'autant que le berceau de l'humanité se situait précisément ici, en Afrique australe. Le trio de touristes avait néanmoins suivi Nkon dans la savane et découvert sur ses pas l'art du pistage. Chaque déjection permettait d'identifier l'animal, son genre, parfois son âge, et surtout le moment de son passage. Si elle était fraîche, on marchait en silence et en file indienne pour réduire sa visibilité. Nkon en tête, mimant avec ses mains les animaux qu'il avait en visuel bien avant tout le monde. Une torsade au-dessus de la tête pour signaler la présence d'un coudou, les cornes larges pour le gnou, plus pointues pour les springboks. John fermait la marche ce matin-là, attentif aux mouvements alentour. Ils étaient à pied, sans armes, et si les animaux n'avaient aucune raison de s'attaquer à eux, les accidents étaient toujours possibles. Des blocs de sel